Il est toujours délicat d'apporter un message de fin d'année. Et ce, pour de multiples raisons, sans doute. La première raison pourrait être de style liturgique. En effet, si vous suivez le calendrier liturgique chrétien, les différentes fêtes qui émaillent l'année chrétienne, le dimanche après Noël, le sujet à traiter est le massacre des innocents, où l'ordre donné à Hérode, à ses sbires, d'exécuter tous les enfants de 0 à 2 ans en vue d'éliminer le nouveau roi qui venait de naître dans son pays, en Judée, à savoir Jésus. Vous parlez d'un message de fin d'année. Commencer ou terminer l'année, après à peine les boules de sapin remisées dans les greniers, paf, un massacre, des bébés par milliers, par centaines. Je ne pouvais pas vous faire ça, donc ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. L'autre raison pour laquelle il est difficile d'apporter un message de fin d'année est sans doute liée au risque de tenter de faire les comptes de l'année écoulée. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Les objectifs ont-ils été atteints? Alors, rassurez-vous, hein, les objectifs, nous n'en avions pas. Il y a bien longtemps que je ne me casse plus la tête ou je ne me fatigue plus à tracer ce genre de perspective. Pourquoi? Parce que les objectifs, c'est forcément les personnes qui vont rentrer dedans, les atteindre ou non, et les personnes, elles dépendent de Dieu et pas de moi, ni même des objectifs. Les membres de l'Église ont-ils grandi dans leur foi, dans leur relation à Dieu? Ceux et celles qui réfléchissent sont-ils un peu plus loin sur le chemin? Vous l'aurez compris, faire un bilan humain d'une année écoulée est toujours risqué, tant il est vrai que vous comme moi, nous sommes marqués par le risque d'être subjectifs dans l'analyse. Donc, pas de bilan spirituel, je laisse celui-ci à vos bons soins et surtout à ceux de Dieu. Oui, mais alors quoi? Il faut bien dire quelque chose, hein? C'est d'ailleurs ma hantise, dimanche après dimanche, que dire et le faire surtout sous la conduite de Dieu. C'est alors que j'étais perdu dans mes réflexions, entre un plat de pâtes à la bolognaise et une gelato à la pistache, qu'une pensée, Seigneur est bon, hein, qu'une pensée m'a traversé l'esprit. Il est bon, pourquoi? Parce que d'habitude, beaucoup de gens, quand ils mangent, ne pensent qu'à ça aussi. Moi, pas, je peux manger et penser à d'autres choses. Voilà cette pensée. Il y a des choses qui sont importantes, elle m'est venue comme ça. Il y a des choses qui sont importantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors vous me dites jusque-là, ouais, ça, merci Yves, on a bien compris. Et c'est là qu'un, c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs, et c'est là qu'un texte biblique m'est revenu en mémoire, juste après, juste derrière. Et ce texte, le voici, ce sont les 4 premiers versets du chapitre 4 de la première lettre de Paul à Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est encore une fois, je rappelle, hein, c'est pas une période très très résumée. Les derniers temps, ça va de l'ascension de Jésus à son retour en gloire. Donc nous sommes dans les derniers temps. Paul y était au premier siècle et 2000 ans plus tard, nous sommes toujours dans ce que la Bible appelle les derniers temps. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. Il y a des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Vous me direz, entre la première question et ce texte, le lien, et pourtant le lien est évident, en tout cas pour moi. J'espère qu'à la fin de ce message, il sera aussi évident pour vous. Il y a des choses qui sont importantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. En tout cas, à travers ces 4 versets, c'était clair pour Paul. Il nous donne en fait ici un outil d'évaluation que l'on peut résumer en une question en nous servant des deux verbes principaux qui sont repris au verset 1. Qu'est-ce que j'ai abandonné pendant cette année et pour m'attacher à quoi ou à qui? C'est vrai que la vie chrétienne, c'est une façon de le dire, hein, peut être considérée comme un abandon de beaucoup de choses et un attachement à une seule, Dieu, et c'est ce que Paul défend ici, sa parole. Tant il est vrai que l'on ne peut pas rester attaché à Dieu sans rester attaché à sa parole. Si vous dégagez sa parole de la relation à Dieu, vous allez vous attacher, vous fabriquez un Dieu à votre mesure à vous. Ça nous aide, je pense, à répondre à notre question, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est beaucoup moins. À la lumière de ce que Paul dit, La réponse, me semble-t-il, devient un peu plus claire. Qu'est-ce qui est important, véritablement, en tout cas pour les chrétiens? C'est Dieu et sa parole. Et je rajouterai pas n'importe quelle parole, puisque de toute évidence, on peut la dénaturer, s'en servir pour tromper les gens, pour en fait les éloigner de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça affolant et effrayant de se dire que l'on peut utiliser la parole de vie de Dieu, donnée par Dieu, pour mener des hommes et des femmes sur des chemins de mort au quotidien. C'est malgré tout ce que font, et c'est ce que Paul dit, tous ceux et celles qui enseignent de fausses doctrines concernant Dieu. Alors je sais, la référence aux démons sera prétexte à sourire pour certains, mais il est néanmoins clair que pour Paul, tout cela est très sérieux car il nous recentre en fait en cette fin d'année et à l'aube de la nouvelle sur le fondamental. Il y a un combat qui fait rage entre Dieu et le pouvoir des ténèbres avec pour enjeu notre cœur, notre âme et notre adhésion. Alors nous savons bien entendu, parce que j'en ai souvent parlé, me semble-t-il, que dans tous les domaines de notre vie, nous sommes l'objet d'attaques et de difficultés incessantes. Et pour toute arme dans ces différentes situations, nous n'avons que les choix que nous posons en réponse. Autant de choix qui manifesteront au bout du compte si nous sommes restés attachés à Dieu et à sa parole ou pas. Mais ce qui est très important ici, c'est que Paul affirme que c'est au travers de la doctrine biblique, ce qui est juste bibliquement ou pas, que se scelle en fait notre appartenance, le fait que nous restions attachés, que nous appartenions à Dieu. Qu'en s'attaquant à la sainte doctrine, comme on l'a appelée pendant des siècles, l'ennemi de nos âmes sait très bien ce qu'il fait. En attaquant la parole de Dieu, il attaque le fondamental, et la conséquence qui en découle, c'est qu'on mène des vies qui nous détachent de Dieu. Autrement dit, c'est par l'attachement à la doctrine biblique, à ce qui est juste bibliquement, que l'on reste attaché à Dieu ou pas. C'est rien à dire, mais je pense que vous l'avez compris, que ce que l'on croit profondément nous rapproche ou nous éloigne de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sans doute, de Barabbas. Rappelez de Barabbas. Ce zélote, alors pour ceux qui ne sauraient pas, les zélotes à l'époque de Jésus, c'était, bon, suivant le côté où on se place, ce sont soit des nationalistes juifs radicaux, soit, pour l'autorité romaine, des terroristes. Et Barabbas était un zélote, c'est-à-dire qu'il tuait, il n'y a pas que lui, il n'est pas seul, ce parti avait pour mission de mener la vie dure à l'occupation romaine, et donc il tuait des Romains. On pense d'ailleurs, les historiens, qui sont bien plus malins que moi, qui ont fait des recherches, pensent que Barabbas a été arrêté alors que deux semaines après, il y avait une manifestation à Jérusalem, parce que l'empereur de l'époque avait l'intention de placer sa statue dans le temple de Jérusalem, ce qui pour les Juifs était une horreur absolue. Et en réaction, les Juifs avaient manifesté. Pendant cette manifestation, des zélotes avaient profité pour égorger des soldats romains. Et un de ces zélotes était probablement Barabbas. Donc pendant, à l'approche de la fête de la Pâque, il était de coutume pour apaiser les tensions en Judée que le procurateur de Rome demande à la foule, aux Juifs, de libérer un prisonnier. C'est quand la première fois on libère un assassin. Tout ça pour dire que notre ami Barabbas a fait l'objet, bien des siècles plus tard, d'un film tourné à Hollywood dans les années 60, avec Anthony Quinn, certains qui ont un peu de culture cinématographique connaîtront, Anthony Quinn à gauche sur l'image, dans le rôle titre, donc il incarne donc Barabbas dans ce film. Alors dans le film, ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est la narration du film. Dans le film, après bien des péripéties, Barabbas se convertit au christianisme. C'est joli, hein ? Et dans les jours qui suivent, Néron fait incendier Rome et en fait ensuite porter la responsabilité aux chrétiens. N'ayant reçu aucun enseignement scripturaire, aucun enseignement étant à la source des choses, Barabbas va participer activement à l'incendie de Rome en pensant faire la volonté de Jésus. C'est la trame du film, c'est horrible. Il dit, je me rappelle très bien de cette scène, même si ça remonte, il dit « Seigneur, je vois ta volonté », puisqu'apparemment tout le monde dit que c'est les chrétiens qui incendient, Barabbas va mettre tout son zèle à incendier Rome parce qu'il pense que cette directive vient de son Seigneur Jésus. On ne peut pas croire n'importe quoi et se dire chrétien. On ne peut pas dire, faire, enseigner n'importe quoi et se prétendre proche de Dieu. Un petit test, allez. Si ce que vous croyez sur Dieu ne vous met jamais mal à l'aise, ou si les décisions que vous prenez ne vous semblent jamais difficiles et allant à l'encontre de vos désirs profonds, c'est que votre doctrine biblique n'est justement pas biblique du tout. Car très souvent, surtout au début de notre marche avec Dieu, mais ça reste vrai, me semble-t-il, tout au long de notre vie, tant notre nature humaine est prégnante et vivante, tous les chemins que Dieu nous demande de prendre sont les plus difficiles parce qu'ils vont justement à l'encontre de ce que nous voulons. Si c'est facile, vous êtes certainement, probablement pas, je ne vais pas m'affirmer trop, mais vous n'êtes probablement pas sur le chemin que Dieu trace devant vous. C'est donc, dit Paul, en attaquant la doctrine que l'ennemi sème le doute, la confusion et le chaos dans la vie de nombreux chrétiens. Alors, si vous avez un doute, encore une fois, ouvrez, si vous n'en avez pas, je peux vous en prêter un, c'est toujours très informatif, ouvrez un livre concernant l'histoire de l'Église. C'est un sujet d'histoire, hein, l'Église, bien entendu. Eh bien, on ne peut pas ouvrir un livre d'histoire de l'Église sans se rendre compte que cela fait 2000 ans, depuis le début, que la doctrine est battue en brèche, que des fausses doctrines, des faux enseignements, des erreurs sont dispensées dans l'Église, avec comme objectif de la mettre par terre. Comment ? En détruisant le rapport qu'ont les membres de l'Église avec leur Dieu. Et au regard de ce que Paul dit, on peut comprendre pourquoi c'est si important pour l'ennemi de nos âmes de saper l'autorité de l'Écriture et d'enseigner l'erreur, de semer l'erreur dans l'Église. Depuis le tout début de l'histoire de l'Église, et je sais bien que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, certainement, ne lisent pas l'enseignement de Paul ou de Jean ou des autres, les épîtres du Nouveau Testament, avec ce regard-là en arrière-plan. Mais ils devraient. La première de Jean, le premier épître de Jean, il attaque quoi ? Il attaque les gnostiques. C'était déjà une hérésie. Alors, hérésie en grec, il ne faut pas avoir peur, hein, quoique, ça veut dire secte, en fait. Hérésie en grec, ça veut dire secte. Mais toutes les sectes sont fondées sur une chose, un détournement et une distorsion de la parole de Dieu. Il faut deux choses pour qu'il y ait une secte. Il faut un gourou, bon, un très charismatique. Ils sont en train de dire « Merde, je suis dans une secte. Ben, » Je ne suis pas charismatique du tout, moi. Avec la tête que j'ai, ce serait difficile. Deuxièmement, il faut que l'erreur soit introduite en termes bibliques. Alors, le gnosticisme, je fais un peu d'histoire, en quoi ça consistait ? Et c'est venu tout de suite dans l'histoire de l'Église. Bien, le gnosticisme, ça vient de la gnose, hein, connaissance en grec. Le gnosticisme prenait une connaissance initiatique de Dieu qui s'acquérait par degrés. Vous devenez de plus en plus proche de Dieu par degrés. Et vous passez d'un degré à l'autre au travers de révélations et de contacts avec les anges, avec des êtres angéliques, qui étaient forcément des instruments de révélation par excellence. Pour l'anecdote, par exemple, quand vous lisez l'évangile de Marie-Madeleine, qui est un apocryphe du IVe siècle, hein, ça fait un peu presque people, car c'est pas la tête à lire ça, hein, mais à un moment, c'est un évangile gnostique, écrit par des gnostiques. Et là, à un certain moment, dans l'évangile de Marie-Madeleine, Jésus embrasse Marie-Madeleine sur la bouche. Alors, un profane qui lui dit ça, « Oh mon Dieu, ça prouve qu'il couchait avec !» Non, non. Dans le gnosticisme, le maître transmet son savoir par un baiser sur la bouche. C'était l'accusation en 1307 contre les Templiers, l'ordre des Templiers. Donc, Philippe le Bel, 1307, 13 octobre 1307, c'est un vendredi. C'est là que le vendredi 13 qui porte malheur vient, c'est de là que ça vient. Philippe le Bel a raflé tous les Templiers parce qu'il espérait leur piquer leur trésor, il n'y en avait pas, manque de bol. Ils ont été accusés de quoi ? De gnosticisme. C'est de ça qu'ils ont été accusés. Apparemment à tort, mais peu importe. Dans notre texte à nous, Paul n'attaque pas le gnosticisme. Ce n'est pas le problème. Il faut savoir que Timothée est à Éphèse à l'époque. Donc l'église d'Éphèse est attaquée par un autre phénomène. Paul dénonce ici toutes les formes d'exercice de piété, n'ayant pour seul fondement que l'orgueil et la prétention à être par ses pratiques supérieur aux autres et admiré par Dieu. Vous voyez, par pratique, pas de mariage, ascétisme, on mange des petits pois, un petit pois par jour, on bac de l'eau et on se met, à la limite, ça va venir dans les trois capsules qui viennent. Il y a des chrétiens qui ont monté sur des, on appelle ça des stylites, parce qu'ils se mettaient sur des colonnes à 4 mètres du sol, 5 mètres du sol, et ils vivaient là. Bonjour pour l'équilibre. Et de temps en temps, on leur apportait la nourriture. Et en faisant ça, ils ont envoyé le message, que ces hommes sont proches de Dieu. C'est de la couillonnade. Ça a toujours existé, hein. Merci Seigneur de ce que tu ne m'as pas embarqué là-dessus, parce que vu ma taille, plus vous êtes grand, plus votre équilibre est en danger. Le côté dramatique de ces pratiques pseudo-spirituelles, censées rapprocher de Dieu, finissent par remplacer la véritable piété, la véritable relation avec Dieu. Et ça a eu comme conséquence de déplacer le lieu de la rencontre avec Dieu, qui est la Bible, vers des signes extérieurs de pseudo-maturité spirituelle. Quand on réfléchit, prenez l'ascétisme sexuel et alimentaire ne flatte en effet que notre nature humaine. Rendez compte, moi je n'ai pas de rapport sexuel. Par contre, vous pouvez manger intérieurement par un nombre incalculable d'images pornographiques. Vous pouvez vous alimenter, à l'époque, aujourd'hui c'est possible. Vous pouvez passer votre vie sur des sites pornographiques, mais vous n'avez pas de rapport sexuel. Vous pensez franchement que vous n'avez pas un problème pour ça. Mais extérieurement, il est resté célibataire par amour pour Dieu. Alors le célibat consacré, ça existe, mais il y a consacré dedans. C'est un appel à l'unité par Dieu. Dieu sait, il appelle certains à rester célibataires. Je ne flinguerai pas l'Église catholique, mais je rappelle quand même que les réformateurs ont, entre autres, se sont basés sur ce texte, mais pas seulement sur lui, pour dire à l'autorité catholique, il y a un léger problème en obligeant les prêtres à rester célibataires. Ça n'a aucun fondement biblique. Et je ne vais pas aller pousser jusque le bouchon trop loin, mais les problèmes que connaît l'Église catholique à certains niveaux, c'est probablement en grande partie en relation avec cette décision prise au XIe siècle qui n'avait pour but que de coopter, de capter l'héritage des prêtres pour qu'ils n'aillent pas à leurs femmes. C'est là que ça vient. C'est très spirituel tout ça. S'il est marié, le pognon va partir chez la femme. Obligatoire, célibat consacré. Terminé. J'assure que ça vient de là. Vous pouvez vérifier. Toutes ces pratiques dont parle Paul ne sont en rien exigées par la parole de Dieu, car comme le dit l'apôtre, tout est bon dans la création, que ce soit le mariage et donc le sexe, et même la table. Je rentre de Bologne tout de même. Même s'il faut de la mesure en tout, bien entendu. Donc on comprend encore une fois mieux pourquoi la réforme a tapé entre autres dans ce genre de pratique en disant « ça n'a aucun fondement biblique ». Revenez dans ce que la Bible enseigne, et ils se sont tous faits, excommunier Luther en premier, bien entendu. Donc, par le passé, dans le présent et dans le futur, il y a eu, il y a et il y aura des dérives sectaires dans l'Église, mais celles-ci doivent être authentifiées, repérées et dénoncées par la parole de Dieu. Alors, vous dites peut-être, à la lecture de ce texte, qui a quand même quasi 2000 ans, que tout cela ne nous concerne plus trop. J'aimerais vous dire que vous avez raison, mais en fait, vous avez tort. Il suffit, nous dit Paul, que vous ne soyez pas suffisamment fondés dans la Bible, et je m'adresse à vous là, que vous négligiez la rencontre au travers de la parole pour que vous soyez susceptibles d'avaler n'importe quoi. Je ne le ferai pas parce que j'ai trop de respect pour l'Écriture, mais je suis, et c'est pas méchamment envers vous que je vous dis ça, mais je suis quasi certain que c'est un dimanche, j'ai entraîné un monceau de conneries pendant une heure, la plupart d'entre vous ne capterez rien du tout. Vous êtes protestants, les petits choux, hein ? Les catholiques, c'est le magistère, par exemple, qui dit ce qui est juste, bibliquement. Vous devez croire ce que la personne dit. Dans le protestantisme, la référence, c'est pas moi, c'est la Bible. Autrement dit, ça veut dire une chose. Vous êtes responsable de ce que vous recevez comme l'enseignement responsable de ce qu'il apporte. Et votre responsabilité est très simple, elle est énoncée par Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Vous devez examiner tout ce qu'on vous dit et retenir ce qui est bon. Alors, ça c'est pour vous. Maintenant, pour les pasteurs et les enseignants, parce qu'on peut être un enseignant et pas pasteur, l'avertissement est forcément encore plus grand. Car si on y réfléchit, les plus menacés dans le domaine de la doctrine biblique et de tenir, j'allais dire, l'église au milieu du village, de tenir l'enseignement droit, ben les plus fragiles et les plus susceptibles d'attaque, ce sont les enseignants eux-mêmes, les pasteurs entre autres, forcément. Ça tombe sous le sens. Les dégâts que peut causer un pasteur qui s'égare doctrinalement sont considérables, car il ne se trompera pas seul. Il va entraîner de par sa fonction même de nombreux enfants de Dieu à sa suite dans l'erreur. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion d'entendre un pasteur enseigner. Il a parlé 1 quart d'heure, hein, ça faisait vraiment peur. Il a enseigné pendant 1 quart d'heure des erreurs doctrinales à une foule en désir. On les trompe et ils applaudissent. En 1 quart d'heure. 4 bourdes, mais c'est même plus des bourdes. Hein. Et tout le monde applaudissait. C'est pentecôtiste, hein. Bon, ça aide. C'est certainement conscient de ça que Jacques, un des frères de Jésus, a écrit ceci. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui vont être jugés le plus durement, ce sont les enseignants. Youpi. Donc ceux qui veulent tenir le crachoir, moi je leur dis toujours, t'es sûr que tu veux tenir? Écoutez, alors, à titre personnel, puisqu'on en parle, par la grâce de Dieu, je ne tremble pas comme une feuille chaque fois que je dois enseigner dans l'église. Ma vie serait un enfer. Je ferai comme Jacques Brel, je ferai une tournée d'adieu et j'abandonnerai la scène. Jacques Brel, excusez-moi l'expression, mais il vomissait chaque fois avant de monter sur scène, tellement il était mangé par le trac. Donc si j'étais en cet état-là, j'arrêterais tout de suite. Voilà. Par contre, très souvent, peut-être pas assez souvent, mais très souvent, je demande l'aide de Dieu pour rester sur la bonne voie parce que je ne suis pas assez stupide pour penser que je ne suis pas plus fragile que les autres ou plus exposé à partir dans des plans foireux en termes de doctrine biblique. Parce que par définition, un enseignant qui se respecte, il potasse, il cherche, il scrute, il lit. Et vous allez parfois lire des choses qui ne sont pas justes. Et là, il faudra que l'Esprit Saint et votre capacité, votre connaissance biblique bloquent tout ça en disant « ça, ça ne correspond pas à l'enseignement de la Bible ». Donc je prie souvent afin de ne rien enseigner qui ne soit pas en accord avec la parole de Dieu. Mais je serai jugé par le Christ sur la vérité de mon enseignement et sur le nombre de chrétiens que j'aurai participé à construire, à édifier, à faire grandir ou à égarer par mon enseignement. Si je dis ça, c'est qu'on ne peut donc être tout ce qu'on veut, sauf désinvolte quand on enseigne la parole de Dieu. Et moi, je suis effaré de voir à quelle vitesse certains se permettent de faire du cirque et de débiter des âneries, encore une fois, devant des foules en délire, sans que personne ne capte quoi que ce soit. Même des personnes présentes qui, à une époque, enseignaient elles-mêmes. Moi, je suis effaré. On dit, il est génial, hein, comme il parle facilement. Vous savez, le diable, il parle super facilement aussi. On ne peut pas tomber dans le grand guignol et le spectacle bon marché parce que c'est trop sérieux, c'est trop grave et c'est trop important. C'est d'ailleurs à l'erreur qu'on va reconnaître l'Église de la fin des temps. Elle sera marquée par ça, par l'erreur. C'est d'ailleurs aux enseignants que l'apôtre Paul, dans notre passage de la première à Timothée, attribue cette conscience marquée au fer rouge, cautérisée. On marquait au fer rouge les esclaves en fuite ou les criminels à l'époque, pour qu'on les repère, pour qu'on ne puisse plus jamais se tromper sur ce qu'ils sont. Ces hommes, donc ces enseignants, porteront, dit Paul, dans leur conscience, le sceau indubitable et ineffaçable du mensonge et de la condamnation. Alors mes amis, les chrétiens ne doivent surtout... ne doivent pas idolâtrer ceux qui les enseignent. Ils doivent, c'est biblique, je ne vais pas signer tous les textes parce qu'il y en a trop, ils doivent les respecter, ça a intérêt, et les écouter. D'autant plus si en plus de les enseigner, ils prennent soin d'eux. Je parle pour les pasteurs. Vous êtes enseignant, sans être pasteur, vous enseignez, vous ne prenez pas soin des gens. Il faut les respecter, les écouter, et je le dis quand même, les rémunérer. C'est biblique aussi. Tout travail mérite salaire, paraît-il. Et il faut faire tout ça, disent tous ces textes, parce que leur responsabilité en tant qu'enseignant et en tant que pasteur est immense devant Dieu. Alors j'ai pris un texte qui est pour moi le plus emblématique. Il est dans l'Épître aux Hébreux. C'est un impératif dans le grec. Obéissez à vos conducteurs parce qu'ils vous le demandent. Non, non. Ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Vous croyez que ça m'amuse de savoir que je vais devoir rendre compte de vos âmes? Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Que ce soit facile et non en gémissant. Qu'est-ce qui me pompe tous l'air? Ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage, forcément. Alors, c'est l'autorité dans la parole est la parole de Dieu. Nous sommes, encore une fois, dans une église protestante. Puis c'est biblique aussi que l'autorité est la parole de Dieu. Mais il n'empêche que cette autorité se transmet et se transfère et s'exprime au travers de ministères, de responsables d'église. Tout ça est juste et vrai et il faut apprendre à le vivre dans l'église. Mais vous devez être de votre côté capable de relever l'erreur dans ce qui est dit et éventuellement, Bible en main, aller vers l'enseignant pour lui demander des explications sur ce que vous considérez comme erroné. Si j'avais été en responsabilité il y a 2 semaines dans cette église, le pasteur descend après la flagellation, je dis « je peux te voir 5 minutes » et je le découpe en morceaux et il ne prend plus la parole parce que c'est grave. Parce qu'à ce niveau-là, c'est même plus une bêtise, on peut tous en dire en disant trop ou pas assez. Mais là, c'est de la doctrine de base, quoi. Et tous ces gens, moi, ça m'en fait soit. Aller vers l'enseignant et lui dire, sur ce point-là, je pense que c'était faux ce que tu as dit. Bible en main. Ce qu'un toujours plus grand nombre de chrétiens est incapable de faire aujourd'hui, et c'est ça qui m'inquiète le plus. De nos jours, les chrétiens choisissent leur église davantage en fonction de la musique et de l'ambiance au culte que de l'enseignement. L'enseignement, on s'en fout aujourd'hui. On s'en tape. D'ailleurs, au moins le pasteur me remue mes bretelles, au mieux je me porte. Hein. Il y a très longtemps, quelqu'un de proche, il y a des années, hein, m'a aujourd'hui après un message, j'aimerais tellement que de temps en temps, tu nous apportes un message de consolation. On apporte un message, Dieu donne des messages de consolation aux enseignants pour son église quand cette église passe par des temps de souffrance. Vous n'êtes pas en souffrance, vous êtes tous endormis. Réveillez-vous et moi je vous consolerai, mais vous êtes endormis. Alors quel message on donne à des gens qui dorment? Des messages que la Bible appelle d'exhortation, qui secouent, qui réveillent. Vous avez déjà vu, entendu les gros réveils là, qu'on ne voit plus, qui font, là ça, vous faites sonner ça, je vous garantis que ça réveille. Mais les petits réveils, l'électronique, pip, 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 pip. Mais le fait qu'on choisisse les églises, les lieux de culte, d'abord pour l'ambiance et la musique, plutôt que pour l'enseignement qui est dispensé, ça dit aussi quelque chose de spécifique à notre époque. Hein? Youpi! Je vais revenir, pour terminer, sur nos 2 verbes du début. Je vous lis le verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, abandonnés, pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Au travers de leur emploi, l'apôtre nous dit quelque chose de fondamental concernant la vie spirituelle. On ne peut pas s'attacher en même temps à 2 choses de nature opposée dans la vie spirituelle. Je vais répéter ça, c'est important. On ne peut pas s'attacher en même temps à 2 choses de nature opposée dans la vie spirituelle. Vous ne pouvez pas être dans la vérité et dans l'erreur. Vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre. Vous ne pouvez pas être dans la vérité et dans le mensonge. Ou vous êtes dans la vérité, ou vous êtes dans le mensonge. Vous ne pouvez pas vous attacher à des choses que Dieu réprouve, avec lesquelles il n'est pas d'accord, et en même temps être attaché à lui. ça ne fonctionne pas comme ça. On a l'impression que ça fonctionne comme ça, que ça peut fonctionner comme ça, parce que quand on vit ça, qu'on a l'illusion d'être encore attaché à Dieu, même en lui désobéissant, il y a le plafond, il faut être clair, hein, le plafond ne tombe pas sur la tête pour ça. Hein. On n'a pas un Dieu qui, oh, il a fait quelque chose de mal, je vais lui envoyer la chaise à sa tête. Ça ne marche pas comme ça. Donc on a l'illusion qu'on peut faire n'importe quoi, vivre n'importe quoi, sans que ça fasse trop de dégâts dans notre relation à Dieu. Mais on se ment. Et si vous ouvrez votre Bible, très vite, vous allez tomber sur des passages qui vont justement vous dire, commence à réfléchir à ton comportement et à la vie que tu mènes, parce que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu attend pour toi. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de votre vie en espérant rester proche de Dieu. Soit il dirige votre vie, soit vous dirigez votre vie. On reste soit attaché à Dieu par la foi et l'obéissance pratique à sa parole, et je n'ai jamais dit que c'était facile, où l'on s'attache à d'autres idées, à d'autres conceptions, d'autres choses, éventuellement d'autres personnes. Et c'est là que normalement vous vous dites « Oh mon Dieu !» Chaque fois que je vis ça, j'abandonne Dieu, oui, mais ce n'est pas pour ça que lui vous abandonne. Paul ne dit pas qu'on est abandonné par Dieu, il dit que vous pouvez l'abandonner. Mais comme il est Dieu et que lui ne change pas et que son attitude envers nous ne dépend pas de notre attitude à nous, la bonne nouvelle, parce qu'il en a encore une, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Pourquoi je peux affirmer ça? Ben, entre autres, parce qu'il nous a donné son Esprit Saint et avec lui, la capacité de nous repentir, de prendre conscience, de revenir, de demander pardon. Chaque fois que vous demandez pardon à Dieu, ne croyez pas que ça, cette impulsion intérieure vient de vous. Hein. Chaque fois que vous tournez vers Dieu pour demander pardon, c'est l'Esprit qui pousse à le faire. Votre nature humaine est incapable de produire ça. C'est l'Esprit Saint en vous qui produit ce désir de demander pardon à Dieu. Et puis, pour tous ceux qui, de toute évidence, ont abandonné l'expression extérieure de la foi, ils ne vont plus au culte, ils n'ont plus aucun contact avec des chrétiens, ils vivent leur vie sans trop penser à qui que ce soit d'autre, ni à Dieu en particulier, ou certains qui l'ont gardé, qui sont à l'Église, mais qui ont une apparence de piété sans rien vivre véritablement de l'intérieur, comme les enseignants qui trompent leur auditoire, il reste la double fonction de l'Esprit-Saint. Son double rôle. Je pourrais faire 2 à 3 messages là-dessus parce que je pense que ce n'est pas clair pour la plupart d'entre nous, mais, et peut-être que je le ferai. Hein. J'ai pris un texte que vous connaissez sans doute, 2e épître de Paul à l'église de Corinthe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Hein. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors c'est un des versets sur lequel on a écrit le plus de bêtises sans doute, enfin un de ceux, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit... même avec le contexte autour, que ça soit extraordinairement clair. Alors, je vais essayer de le résumer simplement. Pour vous dire que l'on peut vivre une vie totalement en désaccord avec ce que Dieu attend et être quand même en Christ et rester un enfant de Dieu. Le fait que Dieu n'abandonne pas ses enfants, même quand ils font les andouilles, et qu'ils mènent une vie qu'ils ne désirent pas. Par son esprit, le Christ demeure, je vais le dire comme ça, chez le croyant. À l'intérieur. Et de son côté, la foi que vous avez en Christ implante le croyant en Christ, dont il est en nous et nous sommes en lui. On trouve les deux dimensions dans l'enseignement du Nouveau Testament. Et ce n'est pas pour rien que ces deux dimensions existent. Elles ne font pas référence aux mêmes choses, elles ne sont pas elles ne sont pas synonymes. Nous sommes en Christ par la foi, par notre foi que Dieu nous donne, notre capacité à croire. Et le Christ est en nous par la présence de l'Esprit-Saint. D'accord ? Ok ? Christ est donc en chacun de nous, des croyants en tout cas. Comme la tête gouverne le corps et comme la racine porte les branches, communiquant sa vie et son influence. Je l'ai dit, par son esprit, il nous pousse à demander pardon à Dieu. Il nous aide avec l'Écriture à voir clair notre position, qu'on fait un truc bien, on fait un truc mal, etc. Et les croyants sont en Christ comme les membres appartiennent à la tête et comme les branches sont en contact avec la racine, par une communion et un partage avec le Christ. Donc j'essaie de résumer ça. Ça vous a expliqué encore une fois, ça j'espère vous expliquer pourquoi on peut vivre une vie en dessous de tout par rapport aux exigences bibliques et quand même être un enfant de Dieu. Donc, pour le dire autrement, contrairement à ce que beaucoup enseignent, Bible en main, on ne peut pas perdre ce statut. Quelle chance, hein. Moi, je l'aurais perdu aussi, hein. Et puis, après, si on peut, j'ai une fois dit, c'est un pasteur qui défend cette position. J'ai dit, oui, ben dis-moi à partir de quand, Bible, hein, montre-moi où on dit à partir de quand et par rapport à quelle faute ou quelle erreur ou quel péché on peut perdre ce statut. Un grand silence. Quand j'ai des grands silences à part une question, je dis ça va. Ça va, c'est bon. Il dit des choses, mais il ne peut pas les argumenter. Donc, lorsqu'on parle de la présence de Christ dans le croyant, nous devons la comprendre en termes de sanctification. La présence du croyant en Christ, quant à elle, concerne la justification. Rappelez-vous ce texte d'Éphésiens, hein, toujours Paul. Vous êtes assis avec le Christ à la droite de Dieu. Ça concerne votre justification. C'est votre statut. Vous êtes en Christ. Et ce statut ne dépend pas de ce que vous faites ou pas. Il dépend de la grâce et du salut offert par Dieu en Christ. Il est éternel, ce positionnement. Paul le dira très bien en 1 Corinthiens 3. Ben, il y aura une évaluation de notre vie chrétienne. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des conséquences à faire ce qu'on veut, hein, sans tenir compte de ce que Jésus dit. Hein. Il y a des conséquences. Ici, ça c'est clair. On parlait de bonheur, à mon avis, vous avez l'illusion du bonheur. Vous êtes solidement malheureux, surtout. Hein. Mais à un moment, quand ce sera le moment du jugement, nous ne passerons pas en jugement, hein, mais nous passerons devant le tribunal du Christ. Et là, le Christ, puisqu'il est le chef de l'Église, il est notre chef, notre Seigneur, il va évaluer votre vie chrétienne. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée, quoi ? Est-ce que tu m'as servi ou tu as pensé à ta tronche ? Et ta vie, tu as pris tes décisions par rapport à ta petite personne, ta petite perspective, tes pensées, tes idées, ou est-ce que tu m'as suivi, moi ? Je pense qu'entre Mère Teresa et beaucoup d'entre nous, on ne va pas faire, ça va, vous avez compris le principe. Hein, c'est clair que Mère Teresa, elle aura une place privilégiée, enfin, elle et d'autres. Hein, ceux qui seront un peu cassés le pet, ils vont avoir une meilleure place que les autres. C'est peut-être un peu normal, non ? Ça n'a pas l'air convaincu par ça. J'étais chef de service, j'augmentais les bons éléments. Hein, pas les mauvais. Hein. Voilà. Heureusement, Dieu n'est pas un chef de service. Il ne vire pas les mauvais éléments parce qu'ils sont justifiés en lui. Par contre, quelqu'un qui ne vit pas la vie que Dieu lui demande de vivre, le côté sanctification, devenir à la ressemblance de Christ, celui-là, il est quasi inexistant, forcément. Et vous savez le problème de tous les chrétiens qui lâchent, et ce n'est pas un jugement, hein, je comprends, c'est un mauvais enseignement biblique. On leur a vendu que quand tu es avec Dieu, tu es béni. Ah oui, de quoi ? De toute bénédiction spirituelle. Oui, mais un chrétien, il n'est pas malade. Un bon chrétien, ça ne peut pas choper un cancer. S'il chope un cancer, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Ça s'enseigne, ça. Hein ? Je vous assure que ça s'enseigne. Moi, j'ai vu les dégâts que ça provoque. Hein ? Et puis simplement, sans partir dans ces extrêmes-là, « Mon Dieu, j'ai un accident de voiture, mais pourquoi le Seigneur permet-il ça ? Je suis un de ses enfants, il doit me rendre heureux. » Donc, si vous avez une vision de Dieu qui va vous bénir parce que vous êtes son enfant, vous allez être malheureux. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui chopent des cancers. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui deviennent paralysés, hein, pendant leur service pour Dieu. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui sont tués. Donc, si vous avez cette vision, je suis un enfant de Dieu, il doit me bénir, ici, matériellement, vous êtes malheureux, il va vous bénir en partie, mais pas si vous avez ce genre d'approche. Et c'est pour ça que la plupart laissent tomber. Quel avantage ça d'avoir Dieu dans sa vie ? Mais la base de tout, ils sont responsables de ça, hein, mais la base de tout, souvent, c'est un problème, entre autres, hein, pas seulement, d'enseignement. J'ai des dizaines d'exemples à vous donner, mais ce ne serait pas édifiant, donc je ne vais pas le faire. Ce qui signifie en clair qu'on peut être un chrétien véritable, habité par le Christ, et ne pas mener une vie sanctifiée. C'est-à-dire vivifié par l'Esprit Saint et digne du Christ. Voilà. Donc ça ne remet pas notre salut en cause, puisque nous sommes en Christ. C'est les deux dimensions. Mais il y aura malgré tout des conséquences à ce genre de vie vécue, ben, soyons clairs, sans Dieu. Mais cela n'enlève rien au statut de la personne empruntant ce chemin. Alors, vous en doutiez sans doute un peu, Mais une petite question qui se pose quand même. Quelle place a pris la parole pendant cette année 2019 dans ma vie? Et puis, deuxième conséquence de ça, à quoi ressemblait ma vie durant cette année 2019? Alors, je vous encourage à faire le point et à redéfinir éventuellement, si besoin est, les choses importantes de votre vie, non pas à la lumière de ce que vous pensez ou considérez comme important, mais à la lumière de ce que Dieu dit dans sa parole. Mes amis, nous ne sommes pas plus intelligents, gardons-nous de penser ça, nous ne sommes pas plus intelligents ni plus spirituels que nos frères et sœurs du premier siècle, à qui s'adressait Paul, entre autres. Nous sommes simplement un petit peu plus technologisés, pour le meilleur ou pour le pire. D'ailleurs, pendant la semaine passée, j'ai chargé une version de la Bible sur mon téléphone. Et je me suis dit, ils ont encore moins d'excuses. Hein. Ils trimballent ce machin partout. Ils sont tout le temps là occupés. Je préférais voir des chrétiens occupés sur un texte biblique, par exemple. Ça me ferait des vacances. Nous ne sommes pas meilleurs. Ce qui signifie que ces paroles de Paul sont tout aussi pertinentes en 2019 qu'elles étaient en 62 de notre ère quand elles ont été écrites. Et qu'elles le seront encore dans l'année qui vient et dans les 10 ans qui viennent, et je ne sais pas quand notre Seigneur reviendra. Mais tant qu'il ne sera pas revenu, cette parole sera toujours d'actualité parce qu'elle est vivante. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Hein. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Et il dit quelque chose de beaucoup plus fort encore. Je déclarerai grand dans le royaume de Dieu celui qui enseignera aux hommes à garder le plus petit de mes commandements. Et il sera jugé le plus petit dans le royaume s'il bouge seulement un iota de ce que j'aurais dit. Iota, pour ceux qui ont fait un peu de grec, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. C'est une cacahuète. Hein. Mais elle donne souvent, elle sonorise souvent les mots quand même. Hein. Alors, je vous laisse un verset biblique pour cette fin d'année. J'espère que vous l'emporterez. Bon, vous savez que je vous encourage. J'ai un côté peut-être, je ne sais pas, naïf ou en tout cas optimiste. Je vous encourage à passer beaucoup de temps à l'écriture et à mémoriser des choses. Quand vous tombez sur des versets qui vous parlent particulièrement au niveau de votre situation, de vos questionnements, etc., mémorisez. Un verset, ça suffit pour bousculer une vie, parfois notre vie. Dieu ne bouscule rarement avec un chapitre, il est gentil. Hein. Sinon, on devrait avaler le chapitre. Vous vous rendez compte, si c'est tout le psaume 119, 176 versets qui vous bousculent, allez l'avaler, lui. Luther l'avait fait, mais c'est Luther. Je vous laisse le verset 11 du psaume 119 pour qu'elle puisse peut-être devenir votre devise personnelle. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour serrer quelque chose, mes amis, il faut que ce quelque chose soit extraordinairement proche. Hein. Je ne peux pas serrer dans mes bras quelque chose qui est à 300 mètres. Hein. Il faut que ce quelque chose soit proche de moi et en moi. Et la conséquence de ça, si vous commencez à le vivre vraiment, c'est qu'effectivement, déjà ici-bas, le bonheur et la grâce vous accompagneront parce que vous serez proche de Dieu. Et que vous vivrez toutes vos circonstances avec son appui à lui, sa vision des choses à lui, sa présence à lui. Et ça, ça fait une solide différence. Ça fait déjà la différence entre être en paix et avoir peur, être dans l'angoisse, être dans le questionnement. Que le Seigneur vous bénisse en cette fin d'année. Et qu'il bénisse, c'est le cas de le dire, sa parole. Qu'il bénisse sa parole. Amen.